le cinéma, la photographie. Le cinéma, la photographie sont toujours évidemment des modèles d'exactitude, hein, de réalisme, d'objectivité et d'information. Et puis la bande dessinée est tout le temps en train de courir après le cinéma, la photographie. Donc d'essayer d'avoir la même authenticité que ça.
Remarque qu'il y a des auteurs qui prétendent que c'est pas les bonnes références, qu'on peut aussi éventuellement donner le théâtre comme référence.
Ah, très bien le théâtre, parce que précisément Roland Barthes emploie un terme à propos du théâtre. Il dit que la mentalité bourgeoise, et c'est de celle-là qu'il s'agit dans notre discussion, la mentalité bourgeoise est accessoiriste. C'est-à-dire qu'elle n'aime quelque chose que par rapport à la densité, à la véracité des accessoires. Donc par exemple, elle va dire c'était bien fait ce film sur les Romains. Hein, ils avaient vraiment les cuirasses romaines. Quoi, et ils vont aller au théâtre et ils vont dire c'était bien fait. Tu as vu les costumes d'époque. Enfin, fait comme... Et c'est cette espèce d'esthétique accessoiriste qui nous vient tout droit du 19e siècle, dans la tradition bourgeoise, qui a imbibé les réactions des lecteurs de BD. Je crois qu'il faut, comme disait Thierry, s'en débarrasser, penser à autre chose.
Mais en même temps, il est évident que des gens comme Hergé, ils ont réussi à imposer leur univers à partir d'une sorte d'exactitude maladive du détail. Bon, il y a une sorte de maladie là-dedans, hein, de maladie du besoin de l'exactitude. Ouais. Mais il y a des gens comme Hergé réussissent à dépasser ce stade-là, et puis il y en a d'autres qui restent collés sur leur téléphone.
Moi, je trouve que si on peut faire des références, que le théâtre est plus proche dans le sens où il force un peu les choses, où il hausse le ton, comme on est parfois obligé de forcer une expression dans la bande dessinée. Il y a le côté de la scène aussi, comme de la case, il y a des tas de choses qui, pour moi, ont plus de rapport, apparemment, je veux dire, mais... sont peut-être plus liés, quoi. On a toujours la filière BD, cinéma, image, que tu as raison de rejeter, mais je crois qu'il y a éventuellement beaucoup d'autres filières.
Ben, je pense que la BD est vraiment un carrefour entre divers, comme tout le cinéma est un carrefour entre le théâtre et la BD aussi, hein. Oui. Il suffit de voir Godard, je sais pas moi, les cinéastes allemands, etc., pour se rendre compte que le théâtre, la BD, etc., la vidéo sont toujours à l'horizon, sont toujours proches de la façon de faire. On se lance dans un médium et puis en fait tous les autres sont comme des loups en train de te suivre, quoi. Tu es obligé de faire mieux qu'eux ou de faire autre chose, de choisir. Donc chaque médium est entouré par les autres et bien forcé de se définir par rapport à ça. Mais la bande dessinée a beaucoup souffert, à mon avis, du parallèle avec le cinéma, parce que...
Mais maintenant, elle en bénéficie, puisque pour l'instant, beaucoup de cinéastes s'intéressent aux dessinateurs de bande dessinée comme auteurs de storyboard, comme costumiers, comme décorateurs, comme plein de choses, je veux dire, comme scénaristes éventuellement.
Oui, l'exemple de Mebius ça est vraiment frappant.
Oui, Van Hamme, scénariste de La Diva, pour un exemple plus concret, plus européen, ou éventuellement tous les auteurs français de science-fiction qui ont été utilisés par Lucas. Il y a un retour des choses, peut-être, qui se fait.
Mais c'est-à-dire que ça, si ça montre quelque chose, ça montre bien que la bande dessinée est en avance sur le cinéma. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant. La bande dessinée, c'est un moyen. Il n'y a pas besoin de trouver des millions de dollars pour faire une bande dessinée à grand spectacle. Alors que pour le cinéma, on sait bien ce que ça coûte et ce que ça fait. Bon, il y a eu des bandes dessinées de science-fiction longtemps avant qu'il y ait du cinéma de science-fiction digne de ce nom.
Ce qui est dommage, c'est qu'on a toujours cherché à adapter l'œuvre d'Hergé pour en revenir au personnage. Au cinéma, alors qu'il aurait été intéressant d'utiliser pas l'univers, mais peut-être la technique, la force, peut-être l'intérêt d'Hergé plutôt comme auteur que dans la pratique de son dessin qui ne fonctionne pas bien, qui ne s'applique pas bien au cinéma et au dessin animé.
Ça a toujours échoué. Hein.
Oui. Mais qu'est-ce que ça aurait donné si, par exemple, Hergé aurait collaboré avec un auteur? Qu'est-ce qu'il aurait participé? Qu'est-ce qu'il aurait donné? Je ne sais pas. Hein. C'est peut-être plus intéressant de se poser comme ça comme question que de voir que tous les, évidemment, toutes les adaptations ont échoué.
Moi, je crois que ce qui est très net dans tout ça, c'est que le cinéma, par exemple, c'est le summum du fantasme réalisé. Hein. Donc, quand on essaye de réaliser un produit de l'imagination, on va essayer de le mettre en cinéma. On va donc essayer de trouver les moyens de faire un décor, de poser des caméras, de trouver des acteurs pour essayer de réaliser son fantasme. Et pour l'instant, aussi bien... à tous les niveaux de notre culture, à nous, il y a toujours un besoin de réaliser les fantasmes au point maximum. C'est-à-dire, par exemple, on va essayer de mettre de la couleur toujours. Hein. Le noir et blanc, c'est toujours un peu en dessous de la couleur. Le cinéma, c'est toujours un peu au-dessus de la bande dessinée parce que ça bouge. Il y a une sorte de hiérarchie qui va de plus en plus jusqu'à la réalisation du fantasme. Au fond, on aimerait bien avoir des univers qu'on puisse diriger de telle manière qu'on puisse réaliser les choses, nos rêves, nos grands rêves, etc. Et en fait, cette hiérarchie est un peu idiote, quoi, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a, des médiums qui sont moins explicites que d'autres, mais dans leur manque d'explicité, dans leurs ellipses, on trouve parfois des trésors qui ne sont pas autre part.
Et Hergé, c'est aussi ça, quoi. C'est entre ces cases, il se passe tellement de choses profondément dans ta tête qui travaillent, qui fonctionnent, que quand on relit et relit continuellement Tintin, tu retrouves toujours des choses.
Ouais.
Mm-hmm. C'est ça qui provoque aussi une fascination, ça à si long terme, je veux dire. Ouais. Parce que quand on est tout gosse, on est fasciné par un auteur, et puis quand on évolue, on grandit, il y a des auteurs qu'on abandonne parce qu'on est peut-être déçu. Et par contre, je crois qu'il se passe quelque chose là avec Hergé qui échappe.
Mm-hmm. Bien, en parenthèse, je vous propose un extrait d'interview que Bob Demoor a accordé à Benoît Peters où il explique la conception des albums au studio Hergé.
À griffonner des petites phrases et tout ça, et des petits dessins.
Bob Demoor.
Et comme ça, petit à petit, l'idée se forme, se développe, et après un temps, il vient nous raconter cette histoire, mais en quelques mots, n'est-ce pas? Parce que bon, lui, il dit toujours, il faut, pour une bande dessinée, pour une bonne histoire, il faut savoir raconter ça en quelques mots. Après qu'il a fait le scénario de l'histoire, il commence à faire un découpage sur une petite feuille, sur une feuille de papier à écrire. Il trace 4 bandes et il raconte ce qui se passera sur cette planche avec des petits dessins, avec déjà un texte. Et après ça, quand il croit que sa page est bien construite, il prend une feuille de papier et il commence à faire le brouillon de la planche, donc au format déjà de la planche originale, et il commence à travailler au crayon et avec sa gomme, et en avant, ça griffonne là-dessus. Et surtout, il fait d'abord le brouillon, parce que s'il travaillait directement sur la bonne planche, il risquerait de traverser le papier, parce qu'il travaille, il retravaille tellement le personnage qu'à la fin, c'est une tache noire. Travailler sur la bonne page, il prend un calque, il décalque les personnages, les croquis qu'il a fait, il choisit entre toutes ces lignes qu'il a dessinées la bonne, qu'il croit la bonne, il décalque donc ce dessin sur la bonne page. Alors là encore, il fait alors les esquisses pour les décors, que moi après je termine. Bon, en connaissant, je connais l'histoire aussi, c'est facile, je n'ai qu'à chercher les documents, les bateaux, un arbre, le château de Moulinsart, je ne sais pas. Donc je sais ce qui se passe sur cette planche. Lui, il travaille donc ses personnages sur la bonne planche parce que c'est pas encore tout à fait comme il veut. Il change encore et ça se peut aussi qu'il change encore les cases ou le suspense parce qu'à la fin de chaque page, il y a le suspense. Qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine? Et bon, il y change tout le temps. Maintenant, quand j'ai fait sa bande dessinée, cette planche se promène entre lui et moi, ou les autres collaborateurs. Parce que lui, il ne commence pas en haut de la page et il la termine, il ne commence pas de A à Z, mais non, il fait des sauts à gauche et à droite, même d'une planche sur une autre. C'est-à-dire, il travaille la planche 2, puis il prend la planche 10, puis la planche 5, qui est de temps en temps, ce qui me concerne un peu déconcertant, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Mais enfin, on s'habitue, puisque ça fait 30 ans que je le fais, on s'habitue un peu. Je suis persuadé que c'est un homme sage. C'est-à-dire qu'il raisonne, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup. Il ne dessine pas seulement avec sa main, mais beaucoup avec sa tête. C'est ce qu'en tout cas j'ai appris de lui, que je dessinais, moi, avant de venir au studio, j'avais une main qui bougeait et qui dessinait. Ça allait vite, je dessinais vite, ça c'est vrai. Alors chez Hergé, lui, il dessine, alors il laisse son dessin. Si ça lui plaît pas, et urgent ou pas urgent, il laisse son dessin, il dort une nuit, calmement, alors le lendemain, il revoit ses dessins et il dit voilà, maintenant j'ai trouvé ce qui ne va pas. Ou si c'est pas le lendemain, ce sera un jour après. Et c'est de la sagesse, je trouve. Et dans sa vie, il est comme ça aussi. Il s'emballe pas vite. Quand on lui raconte des tas de choses, vous allez voir, et ça c'est formidable, tout ça, il dit wait and see, qu'il dit, et il réfléchit. Enfin, en gros, comme ça, il est comme ça.
Bob de Moor, en décrivant les techniques de fabrication, entre guillemets, de la planche, m'a offert un excellent tremplin pour aborder le thème suivant, qui est un thème favori de Pierre Stex, le trait d'Hergé. Puisqu'il lui a consacré un article entier dans le catalogue du musée imaginaire de Tintin, un article qui s'appelait Tintin trait pour trait. Qu'est-ce que ce trait a de tellement remarquable, puisque tu lui as écrit un article entier?
Eh bien, partons du calque. L'usage du calque veut dire qu'il y a élimination des lignes tremblées, puisqu'un dessinateur tremble toujours, et que tout artiste tremble d'ailleurs, puisque le seul intérêt d'un signe artistique, c'est d'être un signe tremblé, de toute façon. C'est-à-dire qu'il provoque des tremblements vis-à-vis du visible ou de l'audible. Mais chez Hergé, il y a un travail sur le calque, qui élimine tous les tremblements du crayon. Et hein, comme disait Bob de Moor, c'est vrai qu'ils sont innombrables. Ça fait un véritable tourbillon, et qui troue le papier. Ça pose donc le problème d'une ligne claire. C'est un terme qu'on a employé depuis quelques années pour dire que l'héritage de Hergé, c'était une école de bande dessinée qui faisait de la ligne claire. Ligne claire, claire par rapport à l'objet et claire par rapport à la ligne elle-même, bien sûr. Donc on a refusé dans ce travail de la ligne claire, qui passe par le calque dans le cas de Hergé, tout ce qui est projectif, émotif, expressionniste ou approximatif dans le tracé. Mais ça me semble poser un très très gros problème d'esthétique. cette histoire-là. C'est le problème de la ligne de contour. Il semble que Hergé soit le maître de la ligne de contour. Il a une façon de dire les choses avec un simple contour. Il n'a pas besoin d'ombre, il n'a pas besoin de ligne de renfort, il n'a pas besoin de hachure, il n'a pas besoin de toutes sortes d'artifices pour montrer qu'une forme existe. C'est la ligne de contour absolument pure. C'est-à-dire, de nouveau, je reviens à mon idée, c'est une ligne absolument abstraite, alors qu'elle a l'air d'être documentariste et précise avec tout ce qu'on a discuté tout à l'heure et qu'on a dénié ici. C'est vrai qu'une ligne de contour pure est une ligne abstraite, parce qu'il n'y a pas de ligne de contour dans la nature.
Oui. Il réussit à donner de la matière en plus.
Oui,
ça.
Oui, il va réussir à tout faire. Ouais. Et ça, je vais essayer de l'évoquer. Mais au départ de ce processus, il y a la ligne de contour pure, c'est-à-dire une ligne complètement abstraite. Quand je te regarde, François, et tu n'as pas de ligne de contour. Mm-hmm. D'ailleurs, au fond, alors gagnons du temps. Alors, voyons une peinture de Cézanne, qui est l'homme qui a vraiment répondu à ce problème de la façon la plus magistrale. Il y a 10 lignes de contour simultanées dès que je regarde quelqu'un en couleur et en relief. Et c'est ce qui est le plaisir de la peinture, c'est de les faire tourner. Cézanne disait, il faut que ça tourne. Pour que ça soit bien, il faut que ça tourne. Alors bon, la question est, comment un artiste comme Hergé va-t-il faire que ça tourne? Parce qu'il faut que ça tourne, sinon ça n'est pas vivant, ce n'est pas un univers. Tout en se maintenant sur la ligne de contour. Je vais encore un peu en parler d'une façon...
Oui.
Je ne donne même pas, au fond, la réponse, je ne la donnerai pas, je ne crois pas que je la connaisse, et je crois que la réponse, chacun d'entre nous doit essayer de la porter en lisant Tintin. Mais le problème est vraiment fondamental, et je voudrais y insister. La ligne de contour désigne deux régimes de l'image. Elle désigne son essence, elle désigne l'essence de quelque chose. Donc si, par exemple, je dis, je vais dessiner une pomme, eh bien, la ligne de contour d'une pomme, c'est plus ou moins une sphère, c'est un cercle. Donc là, je vais désigner l'essence de la chose. Et d'autre part, la ligne de contour désigne l'événement de la chose, puisqu'elle la place dans un contexte où la chose vit. Donc, je dis, la ligne de contour est partagée entre l'essence et l'événement. Mmh. Et au cours de l'histoire de l'art, on peut remarquer qu'il y a eu des choix qui se sont faits entre l'événement ou l'essence. Par exemple, pour revenir à l'art égyptien, qui avait été notre premier déclic de rapport entre Hergé et les Beaux-Arts, on avait dit que c'était dans les Cigares du Pharaon qu'il avait eu le premier grand choc pictural de sa carrière. Eh bien, l'Égypte a réussi à faire dans ses fresques quelque chose qui est autant événementiel que essentiel. C'est absolument prodigieux de voir que dans une fresque égyptienne, on montre des polyèdres ou des hexagones, des triangles, tout ce que vous voudrez, des schémas, et que ces schémas racontent une histoire, et qu'ils sont narratifs, donc ils sont événementiels. C'est une espèce de paradoxe miraculeux dans l'histoire de l'art, qui est très rare. C'est peut-être très beau, c'est très, très émotionnant de penser qu'Hergé a tapé juste, comme d'habitude, il a une intuition absolument incroyable. Il a commencé par l'essentiel événementiel. Quoi. Mm-hmm. Il n'a pas pris les vases grecs. Il a pris l'Égypte. Bon, alors, plus tard dans l'histoire de l'art, on peut voir qu'à certains moments, on va filer tout droit du côté de l'essentiel, on va laisser tomber l'événementiel. Par exemple, Byzance. Les grandes coupoles byzantines, les icônes byzantines sont de l'essence. Il n'y a plus d'événements qui s'y passent, ce n'est plus possible, il y a de l'essence. Mais par contre, la peinture renaissance et la peinture baroque occidentale, c'est de l'événementiel. On ne va plus pouvoir témoigner de l'essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que la peinture occidentale va se désacraliser. Elle va perdre le contact avec les dieux parce qu'elle ne va plus être que de l'événement et ne va plus être capable de témoigner de l'essence. Tout ça pour dire que Hergé se promène dans une zone extraordinairement importante où il faut savoir si on témoigne de la tête de Tintin comme d'une petite boule essentielle et d'ailleurs inamovible, qui ne changera jamais. Et en même temps, si on ne raconte pas une histoire d'un petit bonhomme à qui il arrive des aventures, c'est-à-dire des événements. Ben voilà, c'est peut-être une façon de poser le problème au niveau du trait.
Un des points sur lesquels tu as insisté, c'est que la technique du calque supprime toute l'émotivité qu'on peut retrouver dans d'autres traits.
Oui. Je l'ai peut-être dit qu'elle supprimait, mais c'était peut-être pas tout à fait bien dit. C'est-à-dire qu'elle intériorise l'émotion dans le trait. Pour reprendre, si je devais réécrire cet article, je nuancerais ce que j'ai dit. Mais j'étais un premier essai de saisie du phénomène. Disons que elle fait peut-être que ce que Ingres fait sur le dessin. Ingres a dit, je reviens à lui parce que tout au début de notre conversation, j'avais dit la probité, c'est la base du dessin. Mais Ingres a dit, il faut que la ligne de contour ne soit pas uniquement contour, mais que l'on y mette la couleur et l'ombre. Mmh. Donc je crois que Hergé a fait le même travail de condensation de toutes les forces du pictural, de l'iconique. Il a pris toutes les forces de l'image et il a commencé par les condenser sur un trait extrêmement mince et dont le gonflement, le changement d'épaisseur est quelquefois imperceptible à l'œil du lecteur, mais tout est dedans. Sinon, ce serait un trait schématique, et alors ce trait schématique ne serait ni essentiel ni événementiel, il ne serait plus rien du tout. Ce serait une espèce de petite armature en fil de fer qui tuerait un teint aussi sec.
Il faut dire que derrière, il y a un croquis qui est extrêmement travaillé, buriné, jeté, et qui est en fait un résultat de plein de croquis, de regards de la réalité, de synthèse, de toute une série de choses, et qu'évidemment, quand il en fait un trait, il est le résultat de la, c'est le haut de la pyramide, et dès lors, ça ne peut que... Il y a plein de choses en dessous, évidemment. Ouais. Il ne peut pas avoir plein de choses en dessous.
Je crois qu'il faudrait faire un album des crayonnés d'Hergé pour voir tout ce qu'il y a derrière ce trait.
Ah oui, c'est hallucinant.
Ça devrait être fait, oui.
C'est très, très beau. Ces crayonnés, on sent qu'il a un sens du vivant, je veux dire. Mm-hmm. Après, il l'a polissé. Il l'a rendu universel, je veux dire. Mais avant ça, c'est complètement... c'est un lien tout à fait physique.
Somatique, oui. C'est de la mimétique. Ouais. C'est du mime avec le corps.
C'est ça.
Et il reste toutes les forces de ce corps mimétique dans le trait au calque. C'est miraculeux, parce que normalement, ça devrait... Moebius m'a dit ça. Mais comment fait-il pour que ce soit vivant, alors qu'il nettoie tellement son dessin? Mais c'est pas possible, comment fait-il?
Mais au départ, je crois qu'il a encore plus de rage que n'importe quel autre artiste qui jette, je veux dire. Il a encore plus de volonté de rendre ce mouvement. On sent qu'il s'est gratté parce qu'il veut rendre ce mouvement. Mais après, il a encore d'autant plus de recul, c'est étonnant.
Mm-hmm. Oui, ça c'est un phénomène étonnant.
Oui, je crois pas
quelqu'un comme Moebius, par exemple, va lui essayer de se changer lui-même pour essayer de court-circuiter ce genre de processus mécanique de calque et de passage par différents stades du dessin. Donc Hergé faisant son crayonné un peu fou, tourbillonnant, et choisissant peu à peu le trait exact. Bon, c'est quelque chose de mécanique et d'extrêmement difficile à choisir. Et il y a plein d'erreurs possibles à faire dans le cheminement, ça. Bon, quelqu'un comme Moebius, par exemple, va essayer, lui, de se transformer lui-même pour essayer de faire directement le crayonné juste et de passer directement au trait exact.
En tout cas, je crois que le dessin d'Hergé transforme aussi les personnes qui travaillent comme ça, parce que il y a une influence directe entre le travail que tu fais et la manière dont tu vis, je veux dire. Mm-hmm. Tu ne peux pas vivre en opposition.
C'est ce qui expliquerait sa métamorphose mentale et culturelle plusieurs décennies. Oui. C'était un petit jeune homme bien élevé dans une droite conventionnelle.
Oui.
Et c'est devenu un sage taoïste qui jette des regards un peu plus critiques sur ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est vrai que, comme si André Gide a pu dire écrire nous change, dessiner nous change tout autant. Sa mutation s'est faite par le dessin, mais par le dessin de même dans l'Ixchemébius, Moebius, c'est vrai que c'est une métaphysique actionnant le dessin.
Oui, parfois il provoque les choses. Oui. Il veut provoquer les choses des deux côtés, c'est étonnant. Une fois par le dessin, une fois par le changement de l'homme, je veux dire. Il joue avec ça avec beaucoup de facilité, en fait.
Et nous allons entendre maintenant Vincent Baudoux, qui avait réalisé l'audiovisuel du musée imaginaire de Tintin, dont l'article Tintin très beau très faisait partie dans le catalogue. Je vais parler de son montage audiovisuel et des caractéristiques du dessin et des couleurs découvertes au travers de ce travail.
Un audiovisuel très particulier dans la mesure où c'est pas du tout une analyse, c'est pas du tout une conférence. On avait l'habitude, enfin j'avais l'habitude de faire des montages sur des conférences. Ici, c'est pas du tout une conférence. C'est un audiovisuel dans lequel il n'y a pas de début, dans lequel il n'y a pas de fin et dans lequel surtout il n'y a aucune thèse. Il n'y a pas de théorie à démontrer. Alors nous avons dû trouver un truc évidemment pour nous en sortir, pour faire passer une bonne quinzaine de minutes au public, sans que ce public s'embête, mais en même temps sans vouloir lui faire comprendre à tout prix que Hergé ou Tintin c'était ceci ou cela.